Vous écoutez France Inter, il est 13h. Le journal, Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, des rafales de vent à 360 km/h. Un premier ministre en larmes à la télévision. Le cyclone Dorian a cogné l'archipel des Bahamas ces dernières heures. Quels dégâts ? La première mesure, toute première, émane de la Croix-Rouge. Au moins 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites. Le lycée, au cœur des préoccupations de la rentrée scolaire. Programme renouvelé en seconde, disparition des filières en première et des nouveautés aussi dans l'enseignement professionnel. Nous irons dans l'Oise. Et puis nous nous arrêterons sur deux autres faits marquants de cette rentrée. Affichage du drapeau obligatoire dans les classes et le succès des écoles en langue régionale. Nous en parlerons avec notre invité. La rentrée étudiante à Hong Kong est le nouveau défi des militants pro-démocratie. Ils appellent au boycott des cours. Les menaces de Pékin sont de plus en plus claires. La fin approche pour quiconque contrarie la Chine. Quel suivi psy pour les demandeurs d'asile ? Question après l'arrestation du tueur de Villeurbanne. Il est afghan, comportement psychotique en pleine errance depuis 10 ans. Dans ce journal encore, les thérapies de conversion. Presque toutes les religions sont concernées. Des fidèles homo mis sous pression pour changer d'orientation sexuelle. Anthony Favier, du mouvement homosexuel chrétien David et Jonathan.
Les courants les plus durs de toutes les religions considèrent l'homosexualité et la transidentité comme des désordres et des choses à combattre.
Témoignage en détail tout à l'heure au micro de Julie Pietri, le premier prix littéraire de l'année. Bonjour Ilana Mor-Youssef.
Bonjour.
Et la gagnante est
Bérangère Cournu pour son roman de Pierre Edos, publié aux éditions Le Tripode, c'est le prix du roman Fnac. On est chez les Inuits, un jour la banquise se brise, séparant une jeune femme de sa famille.
Vous nous donnerez les détails tout à l'heure, la rentrée littéraire et Yann Moix face à son passé antisémite. Il met un terme à la promotion de son livre. L'actualité du sport, Djokovic blessé à l'épaule, la liste des bleus pour la Coupe du Monde de rugby ce soir et les dernières heures du mercato en foot, hypothèse Mauro Icardi pour le PSG. À 13h30, après ce journal, La Terre au carré. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Bruno Duvic.
Quel est le menu aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur ?
Qui est selon vous responsable de la dégradation du climat ? On parle de mobilisation citoyenne et de notion de bien commun. Vos questions à notre invitée, la professeure de droit Judith Rochefeld.
La Terre, notre bien commun, 01 45 24 7000 pour vos questions et interventions. Et le mot-clé, l'attaque sur les réseaux sociaux. 14h30, la marche de l'histoire. Cette semaine, elle est consacrée à l'éducation. Voilà le début d'après-midi sur France Inter. Vous avez le programme. C'est parti.
France Inter.
Prier pour les habitants des Bahamas. Voilà l'un des derniers tweets de Donald Trump, pris de pitié pour l'archipel voisin des États-Unis, tout près de la Floride. Le premier ministre des Bahamas, lui, parle d'ores et déjà du jour le plus triste de sa vie. Le nord de l'archipel, qui compte 700 îles, a vu déferler le cyclone Dorian. Des rafales de vent jusqu'à 360 km/h, c'est du jamais vu dans les Caraïbes depuis 30 ans au moins. Alors le jour se lève sur les Bahamas, où il est 7h03 au moment où nous parlons. Bonjour Grégory Phillips.
Bonjour Bruno.
Grégory, correspondant de France Inter en Amérique du Nord, que sait-on des dégâts causés pour l'instant par Dorian ?
Alors écoutez, on a une image encore imprécise parce que à l'heure qu'il est, l'ouragan se trouve toujours au-dessus de l'archipel, plus précisément au-dessus de l'île de Grand Bahama. Mais la Croix-Rouge annonce que 13 000 maisons ont été endommagées ou détruites. Et en vérité, ça n'est pas très étonnant. Ça confirme les rares images qui nous parviennent depuis hier des Bahamas. Sur ces rares vidéos, on voit aussi que par endroit, l'eau a grimpé très haut jusqu'à 6 ou 7 mètres par endroit. Et la même Croix-Rouge explique qu'une grande partie de la population risque de se retrouver sans eau potable, des abris de l'eau et de l'assistance sanitaire vont donc être nécessaires. Et puis pour le bilan humain, les médias locaux évoquent la mort d'un petit garçon de 8 ans noyé sur les îles Abaco. Le jour vient de se lever, vous l'avez dit, sur les Bahamas et on aura sans doute plus d'informations dans les prochaines heures.
Alors autre question clé, Grégory, ce cyclone va-t-il ou non frapper la Floride ? Il y a des dizaines de milliers de personnes déjà mises à l'abri et des soldats positionnés. Hein.
Alors écoutez, ce qu'on sait, c'est que Dorian va très lentement, 1,5 km par heure. Il fait quasiment du surplace au-dessus des Bahamas. Et puis normalement, ensuite, il doit prendre la direction des États-Unis. La côte américaine est à 200 km. Alors selon les toutes dernières projections, l'ouragan devrait approcher des côtes de Floride demain après-midi ou demain soir, mais longer cette côte, ne pas frapper les terres. Il y aura quand même beaucoup de vent et beaucoup d'eau, mais la Floride pourrait être relativement épargnée. Malgré tout, des ordres d'évacuation, oui, ont été donnés à la population dans plusieurs comtés de Floride. Même chose en Géorgie et en Caroline du Sud, deux États qui, eux aussi, encore une fois, selon les dernières projections de la météo américaine, devraient être frôlés par l'ouragan sans doute en fin de semaine.
Les dernières précisions à Washington de Grégory Grégory Philips, merci beaucoup. D'ores et déjà à Paris, le Secours Populaire lance un appel à la solidarité. Il faut s'attendre au fait que les gens n'aient plus de maison, plus d'eau potable, plus d'électricité, ni de quoi se protéger ou se nourrir, dit-on au Secours Populaire. Il y a 70 millions d'habitants en France. Plus de 12 millions font leur rentrée aujourd'hui à l'école, au collège ou au lycée. Les principales nouveautés de l'année sont concentrées au lycée. Enseignement en partie remanié dans les lycées professionnels. Et puis dans les établissements généraux, la réforme Blanquer se met en place. Programme renouvelé en seconde, plus de chronologie en histoire par exemple. Et en première, la réforme du bac et ses conséquences. Disparition des filières, apparition des enseignements de spécialité. À terme, le bac, ce sera 60% du diplôme en contrôle final, 40% en contrôle continu, notamment en première. C'est donc dans les lycées qu'il faut aller pour prendre la température de cette rentrée 2019. Bonjour Sonia Princey.
Bonjour.
Sonia, vous êtes au lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise, dans l'Oise. Lycée polyvalent, 2000 élèves, au carrefour de toutes les réformes. Alors il y a des filières générales, technologiques et professionnelles à Marie Curie. La rentrée ce matin, quelle température d'abord ? Sonia, à votre micro, un grand classique, on entend des élèves perdus.
Bonjour Sonia, on cherche la seconde 3, je ne sais pas si...
Ah non, c'est pas là. C'est la panne.
Certains élèves, effectivement, ont commencé par se perdre. Il faut dire que le lycée est immense. 5 ensembles de bâtiments et des couloirs interminables. Mais Fabien finit par trouver sa salle.
Je te présente Mme Gervais, ta classe.
Correspondant, je te laisse t'installer. Je vais vous distribuer l'emploi du temps nominatif. D'accord ? C'est un emploi du temps, du coup, individuel.
Au fond de la classe, Sana repère tout de suite le vendredi après-midi libre.
On n'a pas beaucoup de cours. Du coup, c'est bien. On est contente. Parce que le vendredi après-midi, on n'a pas cours. À part qu'on commence à 8h tous les matins, mais c'est pas grave. On est libre, en fait. Mieux qu'au collège, ça change.
Les élèves ont ensuite rejoint le proviseur, qui leur a bien sûr parlé de la réforme du lycée.
Bienvenue, vous êtes en plein dans la réforme du baccalauréat. Et vous avez peut-être vu apparaître des matières totalement nouvelles. Je pense à SNT, le numérique, qui fait son entrée dans le tronc commun, ainsi que l'économie, donc en classe de seconde.
Mais ce sont les lycéens de première qui vont inaugurer les nouvelles spécialités. Comme beaucoup d'élèves, Anna a choisi maths, physique, SVT, mais elle est inquiète.
On n'est pas encore sûr de toutes les épreuves qu'on va avoir exactement. Est-ce qu'on va être noté sur toutes nos spécialités ou que sur deux, on ne sait pas. Également sur les études supérieures, comment les écoles vont recruter les élèves ? Quelle spécialité il faut faire ? Parce qu'on a choisi sans savoir exactement. Il y a beaucoup de choses qui me font peur.
Encore un peu de répit, les cours ne commencent vraiment que demain après-midi.
Sonia Princey en direct du lycée Marie Curie de Nogent-sur-Oise avec Alexandre Abergel. Merci pour ce récit, cette prise de température parmi les nouveautés de cette rentrée au chapitre des symboles. Dans toutes les salles de classe, de la maternelle au lycée, doivent en principe être affichés les drapeaux français et européens, la devise, liberté, égalité, fraternité et les paroles de la Marseillaise. Alors est-ce facile à mettre en place ou pas ? Nous allons dans la ville d'Olioul, dans le Var, avec Sophie Glotin. Dans les 50 classes de la ville, ça se fera progressivement.
Les commandes sont en cours, de grands panneaux au format A3, les drapeaux français et européens tout en haut, les paroles de la Marseillaise au centre, et tout en bas, la devise, liberté, égalité, fraternité. Robert Beneventi, le maire d'Olioul.
Ça, c'est tout ce qui fait le lien à la République française, c'est primordial.
La mairie a commandé une version plus enfantine avec des bonhommes et des couleurs vives pour les élèves de maternelle. Et c'est une très bonne idée pour Mallory, une maman olioulaise.
Oui, ça fait partie des valeurs quand même de la République. Et en tant qu'enfant, il faut aussi qu'ils apprennent à être citoyens dès le départ. Donc non, c'est intéressant, non ?
Encore plus convaincue, Stéphanie, qui à la maison commence déjà l'éducation civique de sa fille de 5 ans.
J'apprends déjà à ma fille que le drapeau français est bleu, blanc, rouge. Donc que la France c'est son pays, qu'elle est française. Donc je pense que c'est pas plus mal, effectivement, oui.
Et Stéphanie joint les actes aux paroles avec en pleine rue, une interrogation surprise pour sa petite Manon.
Est-ce que tu connais les couleurs du drapeau ? On en a parlé déjà. Tu te rappelles les couleurs du drapeau ?
France ?
Oui.
Bleu, blanc, rouge.
Voilà. De savoir ça, c'est un minimum pour son pays. Je suis contente que tu le saches. Bravo ma fille.
Voilà pour ces échos dans le Var. Autre éclairage en ce jour de rentrée. Notre invité est Jean-Louis Blenet, le président de l'Institut supérieur des langues de la République française. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Votre institut forme les enseignants qui interviennent dans les écoles en langue régionale. Et vous dites à nos confrères du Monde, nous faisons face à une pression terrible. Il y a une très forte demande, particulièrement cette année, c'est bien ça ?
Ah oui, il y a une très très forte demande pour tous les réseaux. On est assez bloqué pour avancer. Et c'est une chose très heureuse parce que ça montre que, avec une offre de qualité, il y a un avenir pour les langues régionales.
Alors les réseaux, c'est le réseau basque, occitan, breton, catalan, alsacien, mosellan, c'est bien ça?
Voilà, absolument.
Ça représente combien d'élèves tout ça?
Il y a actuellement 15 000 élèves. On peut dire qu'il y en a un peu moins de 3 000 qui sont en secondaire. Et le reste est en primaire. Et on a bon des réseaux qui sont de taille différente. Hein. On a trois réseaux un peu équivalents qui sont occitan de Calandrette, basque de CHK et Diwan pour les Bretons.
Oui.
Et puis deux autres qui sont le catalan et le et l'alsacien mosellan qui sont à un autre niveau. Et là, il faut dire que la proportion la plus forte, c'est vraiment au Pays Basque.
Hein. C'est là qu'il y a le plus de demandes en ce moment.
Mais il y a une demande partout.
Et comment vous expliquez ce succès?
On refuse 300 gamins chaque année en maternelle, de quoi faire 10 écoles. Et on est bloqué par le manque de postes, alors que l'enseignement immersif que nous faisons ne coûte rien de plus à la société que l'enseignement monolingue.
Comment vous expliquez ce succès des écoles en langue régionale, M. Blenet?
Mais parce qu'on montre qu'avec les langues régionales, on peut avoir une scolarité digne de ce nom, intéressante, imaginative. On fait tous des efforts pour avoir une offre pédagogique attractive, intéressante. Et puis, l'immersion et le bilinguisme est en soi une pédagogie, en soi une ouverture au monde. Et ça, c'est très important, et de plus en plus de gens le comprennent. Ils comprennent qu'on est dans un monde, soit on veut un monde qui sera monolingue, soit on va dans un monde plurilingue, pluriculturel. Et nous, on le fait de suite et en plus avec les langues du patrimoine.
Et les parents qui inscrivent les enfants dans ces écoles, que vous disent-ils? Quels arguments? Qu'est-ce qu'ils vous disent au moment de l'inscription?
Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation culturelle et linguistique et la motivation pédagogique. Ce qui est une très bonne motivation pour s'inscrire dans une école. Mmh. Hein, l'école, ce qui est important, c'est que l'école soit bonne, que la pédagogie soit bonne. Donc c'est une très très bonne motivation et les gens, beaucoup de gens ne sont souvent pas originaires de la région, ne portent pas la langue, mais ils découvrent et ils trouvent que c'est très intéressant de s'ouvrir au monde en partant de là où on est.
Combien de temps faut-il pour former des enseignants, que ce soit en basque, en catalan, en alsacien?
Normalement, il faut le temps normal pour former des enseignants, plus, un peu plus, parce qu'on a un déficit sur l'enseignement public, au moins pour l'occitan, et donc on a peu de monde qui arrive au niveau universitaire avec un niveau suffisant. Donc on essaie de, nous à Calandrette par exemple, de mettre une année de plus pour qu'on rattrape cette question de niveau, parce que pour enseigner dans une langue, il faut la maîtriser, il faut formuler sa pensée dans la langue.
Donc ça fait 5 ans, à peu près?
Oui.
Pour former un enseignant. Une demande, si vous aviez une demande là au moment de cette rentrée scolaire vis-à-vis des pouvoirs publics, quelle serait-elle?
On a deux demandes. On a une première demande qu'on a faite et le ministre ne nous a pas aidé vraiment, de reconnaître l'immersion. L'immersion, c'est le moyen pédagogique sans coût pour transmettre les langues régionales. Et il faut le reconnaître, comme reconnaître les statuts de nos langues. Et deuxièmement, il faut aussi donner des postes. Parce que ça ne coûte rien de plus. Quand vous songez qu'à Montpellier, on a une classe de quatrième de 55 enfants.
Ah oui,
on
beaucoup.
Nous refuse de la dédoubler. Est-ce que c'est normal?
Merci Monsieur Blenet d'avoir répondu à nos questions en ce jour de rentrée scolaire et donc ce succès des écoles en langue régionale. Dernier éclairage chaque lundi dans ce journal de 13h pour remettre en perspective l'actualité du jour, une archive. Eh bien aujourd'hui, écho de la rentrée scolaire au temps des 30 glorieuses. Les actualités françaises 1955, baby boom, rentrée à l'automne à l'époque. Et déjà la question, comment accueillir toujours plus de monde à l'école?
Avec le 1er octobre, écoliers, collégiens et lycéens ont pris ou repris le chemin de l'école au milieu d'un optimisme plus ou moins mitigé. Jusqu'au dernier moment, certains ont pu encore craindre ou espérer qu'on ne les prendrait pas faute de place. Car dans ce domaine comme dans l'autre, la crise du logement sévit. Il s'agit de caser 7 millions d'élèves, le sixième de la population française va à l'école. Mais tout le monde sera accepté en se serrant un peu, il est vrai. À côté des anciens bâtiments et en attendant que les nouveaux soient achevés, on a ouvert des écoles provisoires. C'est ainsi que dans Paris, plusieurs écoles ou lycées ont maintenant une ou plusieurs annexes. De plus, on a mis en place des classes préfabriquées. Malgré l'accroissement considérable des effectifs, tous les enfants iront à l'école et souhaitons que les solutions provisoires ne soient que provisoires.
Voilà pour cet archive de 1955. Et en ce jour de rentrée, un ancien ministre de l'Éducation passe un cap symbolique. Jack Lang fête ses 80 ans. La réforme du lycée se met en place, celle des retraites sera validée dans quelques mois seulement, le temps de mener une vaste consultation de type grand débat. Ce report au nom de la volonté d'écouter des Français, d'écouter les Français, eh bien tout cela offre un angle d'attaque à la droite. Ce matin, un des dangers qui menace désormais le macronisme, c'est l'immobilisme, dit Guillaume Larrivé, candidat à la présidence des Républicains. Le président dit de son côté Valérie Pécresse, toujours à droite, le président ne fait pas le quart de ce qu'il faudrait pour redresser le pays en matière d'autorité, mais aussi de réduction des dépenses et des impôts. Voilà, la droite a trouvé son angle d'attaque.
France Inter, le journal de 13h, Bruno Duvic.
Malgré la répression de plus en plus visible, les militants pro-démocratie défient à nouveau le gouvernement local et la Chine. Le terrain de bataille du jour, les salles de classe, les militants en cette rentrée étudiante appellent à un boycott des cours. Les derniers échos et informations sur place, Florence de Changy.
C'est une rentrée des classes très politique pour les élèves de moins 200 établissements de Hong Kong qui ont été accueillis au gris de leurs établissements par des haies d'honneur d'élèves qui scandaient « Libérons Hong Kong, révolution de notre époque ». Les grévistes, soutenus dans certains cas par des anciens élèves, avaient recouvert leurs uniformes de classe habituels par des habits noirs, portant parfois aussi le casque jaune et un cache-œil, signe de reconnaissance des manifestants. Le lycée Saint-François, où la chef de l'exécutif, Carrie Lam, a fait sa scolarité, a participé au mouvement en autorisant ses élèves à boycotter les cours. Malgré de fortes averses, quelques milliers d'élèves grévistes se sont rassemblés à Centrale, dans le calme. Il est toutefois trop tôt pour évaluer l'impact de cette grève, de même que celui de la grève générale lancée pour deux jours par une vingtaine de syndicats. De son côté, le gouvernement a condamné les actions du week-end qu'il a qualifiées de barbares. Et l'agence de presse officielle chinoise, Xinhua, qui est le porte-parole de fait du Parti communiste, a déclaré hier « La fin approche pour quiconque perturbe Hong Kong ou contrarie la Chine ». Hong Kong, Florence de Changy, France Inter.
En Grande-Bretagne, vous êtes avec moi ou je vous vire du Parti conservateur. Voilà, selon la presse britannique, le message adressé par le Premier ministre Boris Johnson aux députés de droite tentés de voter avec l'opposition cette semaine. L'opposition qui veut légiférer dès demain pour empêcher un Brexit dur. Et le chef de la gauche, Jeremy Corbyn, demande même d'ores et déjà des élections anticipées. La poussée de l'extrême droite lors de deux élections régionales en Allemagne de l'Est ce week-end, elle était attendue, elle est très marquée. Dans le Brandebourg, autour de Berlin, le parti AfD double quasiment son score par rapport à 2014, 22,5% des voix. En Saxe, dans le sud-est, c'est quasiment le triple par rapport à 2014, 27,5% des voix. Bonjour Ludovic Piétenu.
Bonjour Bruno.
Correspondant de France Inter en Allemagne, Ludovic. Après ces deux votes, petite carte de la poussée d'extrême droite dans le pays avec vous. D'abord ce constat, 30 ans après la chute du mur de Berlin, il y a toujours deux Allemagnes de ce point de vue, l'extrême droite beaucoup plus forte à l'est.
Oui, l'AfD surfe hein, sur ce discours anti-Ouest, j'ai envie de dire. Cette progression est très nette entre la dernière élection régionale il y a 5 ans et celle d'hier. Elle l'est d'autant plus que la participation, c'est inhabituel, a été très forte. En nombre de voix, par exemple, pour vous donner une idée, en Saxe, on a dit qu'il gagnait près de 18 points. Ça représente en nombre de voix de 160 000 à 600 000 voix. Quatrième force politique il y a 5 ans, deuxième place hier dans les deux régions. Entre-temps, il y a deux ans, il y a eu des législatives. L'AfD avait déjà frappé très fort ici. Depuis, c'est à peine un point de gagné pour l'AfD dans la Saxe et 2,5 points dans le Brandebourg. À suivre fin octobre, toujours dans l'Est. Troisième et dernière élection régionale de cette rentrée, ce sera en Thuringe. Et selon les sondages, Bruno, l'AfD pourrait doubler son score de 2014 en y dépassant les 20%.
Alors, particulièrement forte à l'Est, cette AfD, néanmoins, Ludovic, elle progresse partout en Allemagne.
Oui, pourtant, il est intéressant de rappeler que ce parti a été créé dans l'Ouest, hein, dans la banlieue de Francfort. Si à l'Est, l'AFD surfe sur la crise des réfugiés et axe son discours sur la lutte contre l'immigration avec un ton très radical, des leaders aussi très radicaux, très proches des groupuscules néo-nazis, à l'Ouest, ce parti essaie d'être beaucoup plus bourgeois. Ses figures sont beaucoup plus lisses. À l'automne dernier, l'AFD a réussi un gros coup en faisant son entrée au Parlement de la très prospère Bavière, signant ainsi un grand chelem, une présence dans les 16 parlements régionaux d'Allemagne, une présence dans la quasi-totalité des communes, élu au Parlement européen dès sa première tentative en 2014, avec 7 eurodéputés, et puis depuis cette année, 11, et puis je l'ai mentionné, l'entrée au Bundestag à Berlin, il y a 2 ans, constituant la première force d'opposition, avec 91 des 709 sièges.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci beaucoup. Autre information en provenance d'Allemagne et de Berlin ce matin, rien à voir avec notre sujet, c'est à la fois léger et important, la naissance de 2 bébés pandas, 2 jumeaux au zoo de Berlin. Alors pour la légèreté, 186 et 136 grammes. Information importante, il y a moins de 2000 pandas géants dans la nature. Chaque naissance est donc une victoire et c'est la diplomatie du panda menée par la Chine qui fait des petits puisque les 2 parents avaient été offerts par Pékin à Berlin. L'homme arrêté samedi à Villeurbanne, après avoir tué une personne au couteau et en avoir blessé 8 autres, avait obtenu l'asile en France l'année dernière. Précision ce matin de l'Office français de l'immigration. Le parcours de cet Afghan est très erratique ces dernières années. Une première expertise psychiatrique fait état d'un comportement psychotique et cela pose la question du suivi psy des demandeurs d'asile. Question soumise à Eric Sandlars, qui est psychologue à l'association Primo Levi, en pointe sur ces questions. Les migrants, comme d'autres, souffrent du manque de moyens affectés à la psychiatrie.
On sait bien que les 3/4 des passages à l'acte de schizophrène sur le territoire français, c'est parce qu'il y a eu une rupture de traitement. Donc c'est une question de suivi. Donc plus vous êtes aux marges de la société, ben, moins il y aura de suivi.
Et ces personnes le sont totalement?
Pour les 3/4, complètement. C'est une minorité qui sont suivies par les associations, qui sont hébergées, etc. Je pense que tout ce qui est passage à l'acte extrême pour être évité si on donnait les moyens à la psychiatrie, aux psychiatres de faire leur travail. Il y a tout le panel de soins médicamenteux et tout un travail autour du lien qui peut être fait, mais la psychiatrie n'a pas les moyens de prendre en charge comme elle sait le faire et comme elle peut le faire.
Un propos recueilli par Daniel Messager. Les thérapies de conversion seront-elles bientôt interdites en France? Une mission parlementaire va travailler sur le sujet cette semaine. Audition d'associations et de religieux à l'Assemblée, car les religions sont concernées au premier chef par ces pratiques, des entretiens, des stages, des discussions encadrées par des religieux ou des psys pour, guillemets, débarrasser une personne de son homosexualité et la ramener dans le droit chemin. Cela existe bien dans notre pays, quasiment toutes les religions sont concernées. Écoutez ces témoignages au micro de Julie Pietri.
Ils ne sont encore que marginaux, mais en France aussi commencent à émerger des témoignages glaçants. Électrochoc, jeûne sévère, exorcisme. Anthony Favier est responsable du mouvement homosexuel chrétien, David et Jonathan.
Les courants les plus durs de toutes les religions considèrent l'homosexualité et la transidentité comme des désordres et des choses à combattre. Donc il existe, avec des variantes dans chacun de ces groupes confessionnels, des pratiques pour faire en sorte que les personnes soit n'aient pas de rapport sexuel, soit reviennent à une sexualité hétérosexuelle.
Yacine Djebel-Noir, de l'association LGBT Shams France, a recensé, lui, les témoignages de nombreux jeunes musulmans.
La première étape, c'est d'aller voir un imam. C'est avec des lectures de Coran. On vous fait boire un peu d'huile d'olive, avec un peu de sel ramené d'Arabie Saoudite. C'est pas du tout à la américaine, mais c'est plutôt des thérapies individuelles.
Est-ce que vous, ça vous est arrivé aussi?
Oui, on croit qu'on n'est pas normal, qu'on est maudit. Alors on dit, bah allez, je vais le faire, peut-être je vais guérir.
Une loi, ajoute-t-il, aurait le mérite de dire clairement que personne n'a le droit de nous inciter, de nous forcer à changer d'orientation sexuelle. La députée Laurence Van Sonnebroek-Mialon travaille depuis plusieurs mois sur le sujet.
Je pense que c'est important que les familles entendent aussi que même si c'est autorisé ou toléré par la religion, ça ne l'est pas en fait par la République.
Elle espère déposer une proposition de loi début 2020.
Y aura-t-il des incendies aujourd'hui dans le sud de la France? Le Gard en particulier est sous très haute surveillance. Le risque y est qualifié d'exceptionnel. Surveillance également dans les Bouches-du-Rhône. On ne verra plus Yann Moix dans les médias faire la promotion de son livre Orléans et affronter les questions gênantes. L'écrivain a décidé de mettre un terme à la promo de ce bouquin publié chez Grasset. Il s'y décrit en ancien enfant battu, mais depuis son frère a affirmé que Moix était plus bourreau que martyr, qui croire? Et dans ce contexte, la révélation d'anciens textes et dessins antisémites de l'écrivain a achevé d'assombrir le tableau. Voilà pour le grand perdant de cette rentrée littéraire. On connaît le nom d'une des premières gagnantes depuis ce matin. Elle s'appelle Bérangère Cournu. Son livre, c'est De pierre et d'os, édition du Tripode. Ilana Moriusev, vous nous le disiez en titre, il vient de recevoir ce livre, le prix du roman Fnac.
Oui, 2 ans après Née contente à Oreby, qui se déroulait chez les Indiens au pied en Arizona, De pierre et d'os nous transporte chez les Inuits. Un roman empreint d'écologie et de spiritualité. Une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme et de sa famille. Uksuralik, c'est son nom, doit alors se débrouiller seule pour survivre sur ces vastes étendues blanches. Bérangère Cournu.
Au départ, je suis tombée dans la culture inuite grâce à des sculptures très petites, qui sont des sculptures en os, en pierre, que les Inuits faisaient traditionnellement. Et je crois que ce qui m'a complètement happée, ce sont à la fois les formes épurées et qui en même temps était une évocation extrêmement puissante de la nature. Et je crois que j'ai été frappée par ce contraste en fait entre une forme de simplicité et une force évocatoire très puissante.
C'est ça que vous avez essayé de retrouver avec votre écriture?
Alors oui.
Alors pour ce roman, Bérangère Cournu a bénéficié d'une résidence d'écriture d'un an au Muséum d'Histoire Naturelle. Elle a lu tous les travaux d'ethnologues qu'elle a pu trouver sur les Inuits, mais c'est en écrivaine qu'elle aborde son sujet avec ce personnage de jeune femme qui suit un parcours initiatique semé d'épreuves.
Elle va à la rencontre du territoire. Et sur ce territoire, il y a des hommes et des femmes, bien sûr, mais il y a aussi des esprits, des animaux. Et c'est à la rencontre de tous ces mondes-là qu'elle part. Toutes les cultures autochtones, enfin amérindiennes et inuites, sont façonnées par ce rapport à la nature. À force de baigner là-dedans depuis quelques années maintenant, c'est même notre rapport à nous qui me paraît très étrange. D'imaginer que l'homme est en dehors de la nature, en dehors du reste du vivant, ça commence à me paraître très étrange.
Et c'est bien la question qu'on se pose en refermant ce livre.
Que ce livre qui s'appelle De pierre et d'os aux éditions du Tripode est donc signé Bérangère Cournu et qui vient de recevoir le prix du roman Fnac. L'imbattable a été battu, l'homme jamais blessé est touché. Novak Djokovic a abandonné la nuit dernière à l'US Open de tennis, épaule gauche douloureuse. Quelle est la gravité de la blessure? Seule indication pour l'instant donnée par le joueur. La saison n'est pas terminée, dit Djoko. Les quarts de finale dans cette partie du tableau de l'US Open, ce sera donc Wawrinka Medvedev et Dimitrov Federer. Federer qualifié cette nuit en écrabouillant le Belge David Goffin 6-2, 6-2, 6-0. Nadal joue la nuit prochaine face au Croate Cilic. Autre match à l'affiche ce soir, le dernier Français en lice, Gaël Monfils face à l'Espagnol Andújar. Vous ne connaissez pas? Fabrice Abgral vous le présente.
Pablo Andújar, c'est d'abord un rire. Le rire d'un joueur de 33 ans, comblé, heureux, car il s'apprête à disputer son premier huitième de finale en Grand Chelem. Et pour Andújar, le plus français des Espagnols, cette présence à ce stade de la compétition a une saveur particulière. Ça vaut n'importe lequel des 4 titres qu'il a remportés depuis le début de sa carrière en 2003.
Oui, parce que j'avais jamais fait ça, donc pour moi c'est comme un titre. Oui, c'est comme une victoire, ouais.
Et Pablo Andújar n'exagère pas parce qu'il ne s'attendait plus à vivre de tels moments. En 2015, l'Espagnol se blesse au coude, il subit 5 opérations, ne joue pas pendant 1 an et disparaît du classement. Andújar s'est même cru perdu pour le tennis, alors être en 8e de finale aujourd'hui, c'est comme une renaissance.
Peut-être, c'est une nouvelle jeunesse. Pour moi, j'espère.
Et comme un clin d'œil, Pablo Andújar va retrouver aujourd'hui Gaël Monfils, l'un de ses meilleurs amis. Ces deux-là se connaissent depuis l'âge de 15 ans.
On a joué à la Ball 2001 ou 2002, c'était. Donc on s'est connus, ouais. Il faisait déjà les dancing et show et tout ça.
Pablo adore Gaël et la réciproque est vraie aussi.
C'est un vrai pote. On a fait pas mal de conneries ensemble. On a une belle amitié, quoi.
New York, Fabrice Abgral, France Inter.
En football, les dernières heures du mercato et pour le PSG, la piste Mauro Icardi, attaquant argentin de l'Inter de Milan. Transfert à Paris validé, selon certains de nos confrères, cela reste à confirmer.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Sébastien Léas.
Cet après-midi, c'est le soleil qui domine du nord au sud et de l'est à l'ouest. Quelques nuages fleurissent sur le relief, notamment sur les Alpes du Nord et les Pyrénées. Sur les Alpes du Sud et le nord-est de la Corse, ces développements nuageux peuvent donner naissance à des averses et même à des orages. Des averses orageuses peuvent localement déborder vers la Côte d'Azur. Côté température, les maximales sont proches des normales de saison cet après-midi. Prévoyez 19 à 27 degrés sur la majeure partie du pays. Autour de la Méditerranée, le mercure monte jusqu'à 26 à 33 degrés. Enfin, dans le sud-est, le risque d'incendie est important, notamment à cause du Mistral et de la Tramontane qui soufflent jusqu'à 70 à 80 km/h.